Très bon réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Quand l'économie prime sur les questions artistiques et sur les questions éthiques. Le film Mulan de Disney sort aujourd'hui en France sur les plateformes internet de téléchargement. Disney espérait percer le marché chinois, mais en tournant près de camps d'internement d'Ouïghours, le film crée la polémique et le boycott. Nous y revenons longuement en début de journal.
Une campagne de vaccination en trois phases, du mois de janvier jusqu'au printemps. Le gouvernement a détaillé son plan hier.
Oui, en demandant aux Français de se faire vacciner, un acte altruiste, selon le Premier ministre. La défiance vaccinale, ce sera le thème d'ailleurs du billet politique de Stéphane Robert après cette édition. D'ici là, nous serons allés à Manchester, en Angleterre, où les étudiantes ont une semaine pour quitter leur campus. Décision du gouvernement britannique afin qu'ils puissent passer Noël en famille.
Et puis, près de 800 incidents ont été recensés par le ministère de l'Éducation pendant les hommages à Samuel Paty. Ce professeur avait été assassiné dans les Yvelines à la mi-octobre.
Nous y reviendrons dans cette édition. Enfin, un compte-rendu de l'audience au procès des écoutes qui juge en ce moment Nicolas Sarkozy. Son ami, l'avocat Thierry Herzog, s'est défendu hier d'avoir promis un poste en échange d'informations sur l'affaire Bettencourt. Du cinéma, oui, mais disponible à la maison. Qu'en restera-t-il ensuite ? La société de production Warner Bros. Aux États-Unis vient d'annoncer la diffusion simultanée de ses films diffusés en 2021, diffusés donc en salle et sur sa plateforme de streaming. Cela concerne 17 films au total pour l'année prochaine, dont le très attendu et très populaire Matrix 4, une première à grande échelle pour une société de production. Streaming ou salles obscures, où est l'avenir du cinéma ? Cette discussion avait été lancée sur France Culture cet été par Camille Diao dans le temps du débat. À réécouter sur notre site internet, un exploitant de salles y voyait par exemple une possible complémentarité des expériences entre le cinéma et le streaming. Et d'ailleurs, dès cette année, en 2020, certaines grosses productions sont déjà sorties en ligne plutôt qu'en salle de cinéma. Ce sera le cas aujourd'hui en France du film Mulan, une reprise du dessin animé, là encore produit par Disney. Ce film raconte une légende chinoise, mais il suscite une autre polémique. Il a été tourné en partie dans le Xinjiang, où sont internés de nombreux Ouïghours et les élèves.
C'est l'un des lieux de tournage qui a suscité la colère. Pendant 4 jours, Disney installe ses caméras et ses acteurs dans la région du Xinjiang, là où de nombreux Ouïghours sont internés dans des camps, des centres de formation, selon le pouvoir chinois. La séquence ne dure que 78 secondes à l'écran, mais Diyur Rehan, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe, est outrée.
Pour arriver depuis l'aéroport de Turpan jusqu'à lieu de tournage, il passe clairement par des camps de concentration, il y en a au moins 7. Et en plus de ça, qu'il remercie à ces monstres qui enferment, qui torturent des millions de personnes.
Ce sont en effet les remerciements dans le générique de fin qui ont aggravé la polémique. Disney remercie le Parti communiste et les autorités locales du Xinjiang, autorités qui sont responsables de la gestion des camps ouïghours. Mais pour Marie Holzman, spécialiste de la Chine, Disney a fait son choix entre la morale et le profit.
C'est un peu le drame de l'Occident contre le pouvoir totalitaire. C'est que petit à petit, nos valeurs sont érodées par ça. Disney n'a pas voulu dire « bon, ben, on ne fera pas le film si vous ne nous laissez pas filmer comme on l'entend ». Ils ont été obligés d'accepter les conditions du pouvoir chinois. C'est le problème de la dimension de la Chine. C'est une vieille histoire. Hein, si chaque Chinois fume une de mes cigarettes, je suis milliardaire. Donc Disney est dans cette logique-là, l'argent est à faire en Chine et pas ailleurs.
Longtemps silencieux, le groupe Disney a fini par réagir. Le Xinjiang a été choisi par souci d'authenticité avec la légende de Mulan et la liste des remerciements a été définie par la société chinoise partenaire qui a organisé le tournage. L'association française Solidarité Ouïghour a lancé une pétition en ligne pour demander l'arrêt de la diffusion du film. Toute publicité autour de Mulan reviendrait, selon elle, à cautionner les camps ouïghours.
Élise Delève pour France Culture. Élise Delève, dont vous pouvez retrouver l'enquête complète détaillée sur notre site franceculture.fr sur cette version de Mulan dictée par le marché chinois et les pieds et poings liés de Disney qui souhaite entrer en Chine à tout prix. Notez aussi que quand Disney tourne un film dans le Xinjiang, le gouvernement à Washington bloque, lui, des importations de coton originaire justement de cette région et produit par des Ouïghours. La question des droits de l'homme, elle se pose donc évidemment dans ces régions chinoises, mais pas seulement. Preuve en est cette campagne lancée aujourd'hui par Amnesty International. Elle s'appelle 10 jours pour signer. Signer une pétition qui dénonce des atteintes aux droits humains pour au moins 10 pays dans le monde. À l'occasion du grand reportage de France Culture diffusé ce soir, Marie-Pierre Véraud a rencontré l'un des témoins cités par Amnesty International. Il s'agit d'un jeune migrant qui avait refusé sur un canot de sauvetage d'être renvoyé en Libye. Et c'est parce qu'il a servi de médiateur entre des migrants désespérés et un capitaine du navire qu'il se retrouve aujourd'hui accusé de piraterie et de terrorisme à Malte, menacé d'être enfermé à perpétuité. Abdallah, c'est son nom, est à Malte et il attend son procès.
Psychologiquement, je ne vais pas bien parce que même si actuellement je suis en liberté, mais ce n'est pas une liberté totale, c'est une liberté conditionnelle. Donc j'ai toujours en tête qu'il y a un problème qui risque même que je passe toute une vie en prison. De quelque chose que je ne suis pas responsable, je peux le dire comme ça parce que voilà, ça me dépasse tellement parce que c'est un bienfait qu'on a fait qui s'est retourné contre nous. Donc je ne peux pas sacrifier ma vie, traverser ce désert, traverser cette mer gigantesque, et puis il restait en prison, passer toute sa vie en prison. Pourquoi? C'est ce qui faisait que tout le temps je pleurais, tout le temps, tout le temps. Vous comprenez? On n'a fait rien du tout. On est innocent. On n'a rien fait. On n'a fait qu'aider. Plutôt, il devrait nous encourager, nous applaudir, nous féliciter et non nous accuser quelque chose qui est plus que le mot terroriste. Moi, j'entendais ça. Terroriste, le mot terroriste, j'entendais ça dans les films.
Un témoignage extrait du grand reportage de ce soir, signé pour défendre les droits humains. Il a été coordonné par Marie-Pierre Véraud, réalisé par Annie Brault et sera présenté à partir de 17h par Aurélie Kiefer. 8h07, c'est la suite de ce journal et nous en venons à la vaccination contre le Covid-19, gratuite pour tous en France. La décision a été confirmée hier soir par le Premier ministre. Jean Castex faisait le point sur la stratégie vaccinale qui se fera en France en 3 étapes. Les résidents dans les EHPAD et leur personnel sont prioritaires pour le mois de janvier. En février viendront les plus âgés et les plus fragiles et puis le reste des Français devra attendre le printemps pour la vaccination contre le Covid-19. Une vaccination gratuite donc, mais pas obligatoire. Et c'est sûrement la bonne stratégie, selon la professeure Elisabeth Bouvet. Elle est infectiologue et préside la commission technique des vaccinations dans la Haute Autorité de Santé.
C'est ce que nous préconisions, parce qu'on considère effectivement en France qu'il vaut mieux convaincre, il vaut mieux que les gens soient dans une attitude positive par rapport à la vaccination, plutôt que de se la faire imposer. C'est un pari, hein, mais c'est un pari qui nous paraît nécessaire. Et donc, nous sommes absolument convaincus qu'il ne faut pas rendre cette vaccination obligatoire. Éventuellement, ceci pourrait être envisagé si on avait un échec de l'autre stratégie. Mais il faut commencer par la rendre volontaire. Je pense que la façon dont va se dérouler cette campagne de vaccination, et surtout au début, est absolument importante pour la suite. Il faut donner confiance aux Français, il faut leur faire comprendre que cette vaccination se passe bien et il faut leur montrer que effectivement les professionnels de santé, notamment leurs médecins, sont positifs dans cet acte de vaccination et sont eux-mêmes les premiers à bénéficier de la vaccination.
Elisabeth Bouvet répondait à Marc Potvin lors du journal de 22h hier soir sur France Culture. Pour Noël, avant les vaccins, par ailleurs, ce sera en France 6 adultes à table, pas plus, recommandation du gouvernement qui ne compte donc pas les enfants et qui demande toujours à respecter les gestes barrières, même à table. En Angleterre, les étudiants ont une semaine pour quitter leur campus. Décision du gouvernement britannique afin qu'ils puissent passer Noël en famille. Ils devront, avant cela, avant de passer Noël en famille, se faire dépister et suivre leurs cours en ligne. Plier bagages dans l'incertitude, c'est un reportage de Richard Place sur un campus de Manchester.
Triste bâtiment vide sous la grisaille. Jake ne vit pas vraiment la vie d'étudiant dont il rêvait. Il va passer un test après-demain, mais pas dans le cadre de sa licence de langue. Il s'agit d'un test Covid, puis un deuxième, 3 jours plus tard. S'il est négatif, il pourra rejoindre sa famille à Sheffield et laisser derrière lui cette ambiance sinistre.
En septembre, je suis rentré chez moi une fois quand c'était permis. Et à part ça, je suis resté ici. C'est un peu dur parce que j'ai toujours l'impression d'être piégé dans ce même cycle, comme si chaque jour ressemble au dernier. C'est difficile pour moi.
En cas de test positif, l'étudiant doit s'isoler à la fac pendant 10 jours, avant de pouvoir voyager. Le gouvernement veut ainsi permettre aux familles de se retrouver sans propager le virus. Charge aux universités de tout organiser, et ça se passe bien à Manchester selon Francesca. À 19 ans, elle vit sa deuxième année ici, beaucoup moins amusante que la première.
Par rapport à l'année dernière, tout était nouveau et c'était passionnant, mais maintenant c'est... Vous voyez, maintenant, il n'y a personne parce qu'il n'y a pas de cours dans les bâtiments. C'est dommage, mais plus vite, on trouve une solution, plus vite, la vie sera normale.
En janvier, Francesca espère pouvoir revenir sur le campus pour y retrouver l'ambiance normale d'une université, studieuse et légère à la fois. Pour bénéficier aussi de connexions rapides et sûres dans un royaume où le réseau est régulièrement défaillant, de très nombreux étudiants s'inquiètent de ces cours en ligne depuis chez eux, alors que les campus bénéficient eux d'installations très au point.
Richard Place depuis Manchester pour France Culture. Cette information donnée maintenant il y a quelques minutes par le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises Alain Griset. La période des soldes d'hiver commencera le 20 janvier au lieu du 6 janvier. Deux semaines de décalage donc, comme le demandaient les associations de commerçants.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal après l'assassinat terroriste de Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie dans les Yvelines. Près de 800 incidents ont été recensés par le ministère de l'Éducation à la mi-octobre.
Oui, il s'agit de provocations, de refus de participer ou d'apologie de terrorisme de la part d'élèves pour beaucoup, mais aussi de parents. Incidents survenus pendant les hommages dédiés à Samuel Paty au mois d'octobre donc. Les sanctions vont de l'avertissement à l'exclusion définitive pour 44 élèves. C'est pour promouvoir la laïcité et pour résister aux pressions communautaires, selon leurs mots, que certains professeurs créent un collectif. Appelé Vigilance Collège-Lycée, il se dit apolitique et il compte une quarantaine d'enseignants pour le moment, parmi lesquels Delphine Girard, professeure de lettres classiques dans un collège du Val-de-Marne. Au micro de Sonia Princet, elle s'en explique.
L'objectif de notre collectif est d'agir comme un rempart, c'est-à-dire de se structurer en réponse aux pressions que subit l'école, aux pressions communautaires, aux pressions islamistes, aux pressions qui sont faites sur la liberté pédagogique, la liberté de circulation des savoirs, la liberté d'expression et toutes les atteintes à la laïcité que l'on constate un peu communément dans notre pratique ordinaire. Eh bien, contre toutes ces pressions que subit l'école, former un réseau d'enseignants qui, ensemble, vont opérer une action de vigilance accrue sur ces questions-là, en communiquant entre eux, en essayant de prévenir l'émergence de futures affaires Samuel Paty et, le cas échéant, en intervenant localement pour accompagner un collègue, que ce soit juridiquement, administrativement, publiquement, pour évidemment produire des contenus sur la laïcité et sur ces thématiques qui sont brûlantes en ce moment, des contenus que nous mettrons par exemple en ligne sous forme de séquences pédagogiques ou de fiches sur la laïcité.
Voilà pour cette initiative d'une partie du corps enseignant. Soulignons qu'hier, l'inspection générale de l'éducation a rendu son rapport sur les derniers jours de Samuel Paty avant son assassinat. Elle confirme la réactivité de la prise en charge de l'institution, mais souligne un défaut de surveillance des réseaux sociaux. L'éducation nationale encore et son Grenelle qui doit durer pour au moins 2 mois pour moderniser l'institution. Mais hier, la FSU, première fédération syndicale enseignante, et la CGT Éducation ont annoncé avoir quitté ces ateliers. Elle dénonce une opération de communication et un manque de dialogue. Là, c'est le dialogue qu'il va falloir rétablir sur la proposition de loi dite sécurité globale. L'ONU estime que l'article 24 en cours de réécriture en France semble aller à l'encontre des engagements internationaux pris par le pays en matière des droits de l'homme. Ces experts indépendants des Nations Unies considèrent qu'il faut aller plus loin et repenser l'objectif du texte dans son ensemble. Un texte qui vise, je vous le rappelle, à renforcer les pouvoirs des forces de l'ordre et à mieux les protéger. Jamais je n'ai été un corrupteur. Au procès des écoutes, où est notamment jugé Nicolas Sarkozy en ce moment, son ancien avocat et ami Thierry Herzog était entendu hier. Lui aussi est accusé de corruption, soupçonné d'avoir aidé à échanger des informations contre un poste à Monaco pour un haut magistrat. Habitué des tribunaux puisqu'il est avocat, Thierry Herzog s'est défendu hier avec pragmatisme, Anne Fauquemberg.
Dans le public, les premiers bancs sont occupés par de nombreuses robes noires et d'emblée, le ton est donné. Sur les près de 160 conversations de la ligne Bismuth, Thierry Herzog ne s'exprimera pas. Pas besoin d'explication, la défense a fait citer deux témoins au préalable, dont l'icône du barreau Henri Leclerc, 86 ans, ancien président de la Ligue des droits de l'homme. Il est venu démontrer par A plus B en quoi les interceptions téléphoniques entre un avocat et son client menacent la démocratie. La présidente Christine May poursuit d'abord mollement. Elle vérifie les liens de Thierry Herzog avec Gilbert Azibert, une relation professionnelle devenue un ami, répond d'une voix calme, l'avocat à la large carrure. Il raconte les petits cafés pris à son cabinet place Saint-Michel à deux pas de la cour de cassation où exerçait le haut magistrat à l'époque. Puis il revient sur la saisie des agendas présidentiels à l'origine du pourvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Bien sûr que les conseils de Gilbert m'étaient précieux, mais il n'attendait rien de moi, si ce n'est mon amitié, insiste-t-il. Puis la présidente enchaîne sur le poste à Monaco. Alors que Nicolas Sarkozy a dit à son avocat sur une ligne officielle qu'il n'avait pas fait la démarche, ce que les autorités monégasques ont confirmé, Christine May se permet la lecture cette fois-ci d'une interception entre Thierry Herzog et Gilbert Azibert. Pourquoi quelques jours plus tard vous dites à votre ami que la démarche a été faite ? Thierry Herzog, s'inspirant de propos d'Edoui Plenel, explique qu'une conversation téléphonique n'est pas le reflet de la vérité. Mais il reconnaît, j'ai menti et je pensais lui expliquer quand je le verrai.
Anne Fauquemberg, une journée de deuil prévue mercredi prochain plutôt qu'un hommage national. Par pudeur, Valéry Giscard d'Estaing ne voulait pas de grande cérémonie, c'est en tout cas ce qu'a expliqué hier Emmanuel Macron qui lui a rendu hommage. Les obsèques de l'ancien président se dérouleront demain dans l'intimité familiale dans le Loir-et-Cher. Le temps aujourd'hui sera pluvieux ce vendredi sur l'est de la France avec une vigilance orange sur la Corse du Sud. Le tout sur des températures encore homogènes, 4 degrés de Brest à Strasbourg, 6 degrés à Lille, à Paris et à Nevers, 8 à 12 degrés près de la Méditerranée, Guillaume.
Merci Clara Lecoq-Réal. Eh bien, en ce jour de Black Friday, vous savez, un Black Friday qui aurait dû avoir lieu il y a une semaine, et puis avec la pandémie et tout ce qui s'ensuit, il a été retardé. On va évoquer le magasin du monde et la mondialisation. Nous sommes en compagnie d'un historien, Pierre Saint-Garavelou, qui signe précisément le magasin du monde aux éditions Fayard. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de l'économiste Daniel Cohen. Et puis vous retrouverez nos camarades, et notamment Hervé Gardet, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte. Et enfin, dans quelques secondes, un billet politique avec vous, Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Guillaume.
De quoi allez-vous nous parler, Stéphane ?
Nous nous intéresserons aux craintes qui s'expriment vis-à-vis de la campagne de vaccination à venir.